Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Je fais pour la deuxième fois cet enregistrement parce que le premier a eu un problème de son. Alors, si vous vous souvenez bien, on s'est quitté avant votre stage et le confinement avec Celle qui marche la nuit, un roman de Delphine Bertolon. Et on en était à un moment où le principal suspect de la mort de Pauline qui a disparu il y a 30 ans et qui peut-être se manifeste dans la Maison des Pins, où vit Malo, le héros de l'histoire et le narrateur de l'histoire. Arnaud Frachet, donc, est en train d'avouer ce qui s'est passé 30 ans plus tôt. Donc, on lit des comptes rendus, des procès-verbaux d'audition entre Arnaud Frachet et le commissaire Bertin. Voici le premier. Nous ne sommes donc plus dans le carnet de Malo. Procès-verbal d'audition numéro 1. Arnaud Frachet, lundi 14 août 2017. Monsieur Frachet, que s'est-il passé le 26 août 1987? Dans la matinée, Pauline est venue me voir. J'étais dans ma chambre, je lisais. On a frappé à la porte, c'était elle. Elle voulait me parler. De quoi voulait-elle parler? Elle n'avait pas l'air bien. Je veux dire, Pauline était parfois un peu bizarre, mais là, elle était encore plus bizarre que d'habitude. C'est-à-dire, elle était toute blanche, elle tremblait. J'ai cru qu'elle était malade. Que vous a-t-elle dit? Elle est venue s'asseoir sur mon lit. Elle m'a raconté avoir assisté, quelques jours plus tôt, à une scène perturbante. Elle a utilisé ces mots-là? Scène perturbante? Non, enfin, je ne sais pas. C'était il y a 30 ans. Je reconstitue, quoi. D'accord. Excusez-moi. Poursuivez, je vous en prie. Elle m'a raconté qu'elle avait surpris sa mère et mon père dans une situation compromettante. Vous pouvez préciser? Vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai besoin que vous le disiez. Pauline soutenait qu'elle avait vu mon père et sa mère en train de faire l'amour, dans son bureau, le bureau de mon père. Évidemment, je ne l'ai pas cru. Pourquoi vous ne l'avez pas cru? Parce que mon père aimait ma mère? L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'était pas le genre de mon père. C'est un homme droit, mon père, un homme sérieux. D'ailleurs, il a toujours nié. Pauline racontait n'importe quoi. D'accord. Que s'est-il passé après ça? J'étais fou de rage. Je ne comprenais pas pourquoi elle racontait des mensonges pareils. Pourquoi elle crachait sur ma famille alors qu'on les avait sortis du caniveau, sa mère et elle. Du caniveau. Je veux dire, travailler chez nous, c'était le paradis. Elles habitaient une belle maison. Et nous, on n'était là que 2 fois par mois. Un peu plus pendant les vacances. Elles avaient quitté un studio pourri, dans une ville pourrie, pour se dorer la pilule dans le sud, avec un salaire en plus. Mes parents avaient été généreux. Et cette fille, elle venait raconter que mon père était un salaud. Et ça vous a mise en colère. Évidemment que ça m'a mise en colère. Vous avez voulu vous venger? J'avais 13 ans. Je sais bien, mais quand même, vous avez voulu vous venger? J'ai voulu, je ne sais pas, la punir, oui, je suppose. La punir de raconter des conneries, de salir mon père avec ses commérages. Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Frachet. Je lui ai fait croire que je voulais lui montrer quelque chose. Lui montrer quelque chose? Comment ça? Je lui ai dit que j'avais trouvé un chaton abandonné, que je l'avais recueilli et caché dans la cave parce que mes parents détestaient les animaux. Vos parents détestaient les animaux? Ce n'est pas le problème, parce que ce chaton n'existait pas. Non, ce chaton n'existait pas. J'ai attiré Pauline dans la cave et je l'ai enfermée. J'ai crié que ça lui apprendrait à dire des saloperies sur mon père. Ensuite, que s'est-il passé? Elle a crié aussi. Elle m'a supplié de la laisser sortir, mais j'étais en colère. Elle tapait contre la porte en haut de l'escalier, mais j'ai tenu bon. J'étais trop en colère. Et je suis partie. Je suis rentrée à la maison, je suis retournée dans ma chambre, j'ai repris mon bouquin. Qu'est-ce que vous lisiez? Je ne sais plus. Vous êtes sûr? Moby Dick, je crois. C'est l'un des romans préférés de mon père. D'accord. Vous avez enfermé Pauline dans la cave pour la punir. Et ensuite, que s'est-il passé? Vous l'avez laissée là? Oui. Vous l'avez laissée là combien de temps? Je ne sais plus. Quand l'avez-vous libérée? Je ne sais plus. Peut-être parce que vous ne l'avez jamais libérée? J'avais 13 ans. Je sais, oui, vous l'avez déjà dit. Vous étiez un très jeune garçon. Je ne l'oublie pas. Personne ne l'oublie, croyez-moi. Vous savez que quoi qu'il se soit passé à l'époque, on ne peut rien contre vous, n'est-ce pas ? J'ai soif. Nous allons vous apporter un verre d'eau. Il faut que j'aille aux toilettes. Très bien, monsieur Frachet. Pas de problème. Nous allons faire une pause. De retour dans le carnet de Malo, samedi 19 août 2017, 16h19, plein soleil. Évidemment, nous n'avons pas le droit de lire ça. Jean-Philippe Bertin, par amitié pour Clounet, lui a transféré le compte-rendu d'audition. Lily a intercepté le dossier dans l'ordinateur de son père et discrètement en a fait une impression papier. Comme je l'espérais, puisque je n'avais plus aucun moyen de la joindre, elle est arrivée chez moi à l'heure du déjeuner. Elle a salué mes parents qui cuisinaient, un rôti de veau aux pommes de terre, ma petite sœur qui dessinait, un camion-citerne rouge vif. Puis nous sommes montés dans ma chambre. Là, elle a sorti une grande enveloppe en papier kraft de son sac en cuir bleu. J'étais surexcitée, mais Lily, pâle comme un linge. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Si mon père l'apprend, pour le coup, il me tue. C'est complètement illégal. Elle ne plaisantait pas. Ses mains tremblaient. Mais je suppose que, comme pour moi, la curiosité avait été plus forte que la peur. Tu l'as lu ? Elle a hoché la tête d'un air grave. J'ai commencé à sortir les documents de l'enveloppe. Tu ferais mieux de t'asseoir, Malo. Je me suis installée sur mon lit et j'ai commencé à parcourir les documents. Au fil des pages, j'avais le souffle de plus en plus court. J'ai levé les yeux vers elle. Pourquoi il parle enfin ? Pourquoi il parle après toutes ces années ? Grâce à toi en partie. D'après mon père, écouter cette cassette l'a beaucoup perturbée. Imagine si tu entendais la voix de quelqu'un que tu as tué. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Il l'a tué ? À ton avis ? Je ne savais que penser. Comme Arnaud Frachet, j'avais besoin d'une pause. Lily se promenait dans ma chambre, étudiant les posters, les photos, mes objets de geek, les bouquins dans ma bibliothèque et ma précieuse collection des cahiers du cinéma. Tu aimes Stephen King, visiblement. J'ai haussé les épaules. Bon, comme tout le monde. Je ne l'ai jamais lu, figure-toi. Sérieux ? Alors prends-en un. Le maître de l'horreur, c'est l'actualité. Ses doigts aux ongles multicolores couraient sur le dos des livres. Un index vernis rouge s'est finalement posé sur un titre. Carrie ? Par exemple. C'est un de mes préférés. Mon préféré, peut-être. De quoi ça parle ? Vraiment ? Tu n'as même pas vu le film ? Enfin, celui de Brian De Palma, parce que le remake ne vaut pas un clou. Je ne suis qu'allée ni en cinéma, ni en littérature. Alors ? J'ai soupiré. C'est l'histoire d'une fille mal dans sa peau. Une fille que tout le monde persécute, à l'école, chez elle. Et puis, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Mais encore ? Télékinésie, le pouvoir de détruire. Mais je te préviens, c'est riche en hémoglobine. Lily m'a regardée droit dans les yeux, très sérieuse. Tu crois qu'il faut détruire ceux qui nous persécutent ? J'ai haussé les épaules. C'est juste un bouquin, Lily. Elle a extrait Carrie de la bibliothèque, puis s'est assise à côté de moi sur le lit. D'un signe du menton, elle a désigné le dossier. Continue de lire. Procès verbal d'audition numéro 2, Arnaud Frachet, lundi 14 août 2017. Monsieur Frachet, revenons à ce 26 août. Il y a eu un orage. Oui, il y a souvent des orages dans le coin. Cet orage était particulier ? Terrible, oui. Un déluge. Vous étiez où, vous ? À la maison. Tout le monde était à la maison ? Vos parents ? Solange Gardinet ? Oui, tout le monde. Sauf Pauline. J'imagine que sa mère s'est inquiétée de ne pas la voir rentrer, alors que dehors, comme vous dites, c'était le déluge. Monsieur Frachet ? Oui. Mais vous, vous saviez où elle était, n'est-ce pas, Pauline ? Oui. Tout le monde devait la chercher, non ? Et vous n'avez rien dit ? Vous n'avez rien dit ? J'ai eu peur. Peur de quoi ? De me faire disputer ? C'était l'apocalypse dehors. Mais vous, vous aviez peur de vous faire disputer ? J'avais 13 ans. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur Frachet. J'essaie seulement de comprendre ce qui s'est passé. Je n'ai pas osé le dire. Pauline était enfermée à la cave et je n'ai pas osé le dire. D'accord. Que s'est-il passé ensuite ? L'orage. L'orage ? L'orage a tout détruit. Le jardin, une partie du toit. Et l'eau s'est infiltrée. Qu'entendez-vous par là ? Bon, je vais vous chercher un café.
Un thé.
Un thé, entendu. Vous avez faim ?
Non, merci, non.
Vous allez mieux ?
Ça va.
Vous disiez, l'eau s'est infiltrée.
L'eau a inondé la cave.
Oui.
Il y a eu un glissement de terrain et l'eau a inondé la cave.
Mais vous étiez où à ce moment-là ?
À la maison.
À l'abri ?
Vous étiez à l'abri dans la maison avec votre père, votre mère et Solange. C'était le déluge et vous saviez que Pauline était dans la cave.
Oui. Mais vous avez continué à vous taire.
J'avais peur.
De vous faire disputer ? Vous vous rendez compte ?
Oui.
Oui ? Ça fait 30 ans que je ne dors plus. 30 ans que ce secret me ronge.
Alors, je me rends compte, oui. Mais putain, je n'étais qu'un gosse.
Et ensuite, l'orage a continué. C'était de pire en pire au fil de la journée. Solange, finalement, a appelé les secours pour signaler la disparition de sa fille.
La police est venue ?
Oui, les pompiers aussi. Les gendarmes nous ont interrogés. Personne ne savait rien. Enfin, vous voyez.
Je vois, oui. Poursuivez.
Ils ont commencé à la chercher, mais le temps était trop mauvais. Ils pensaient qu'elle avait fugué, ou qu'elle s'était perdue, qu'elle s'abritait quelque part en attendant que l'orage passe, qu'elle allait revenir.
Mais vous, vous saviez qu'elle ne reviendrait pas.
Ah non, non, je ne savais pas. Moi aussi, je croyais qu'elle allait revenir. Et j'étais terrifiée à cette idée.
Vous vous foutez de moi ?
Je ne savais pas que la cave avait été inondée. Je pensais aller lui ouvrir quand l'orage serait passé. Elle serait en colère, bien sûr, mais j'imaginais des stratagèmes pour la faire taire. Je comptais la faire chanter, la menacer, menacer sa mère. Je pensais vraiment que j'allais la libérer, et qu'elle ne dirait rien, et que toutes les deux, elles s'en iraient, et que tout redeviendrait comme avant.
Mais le déluge s'est enfin calmé le lendemain après-midi.
Oui.
Et vous avez voulu la libérer.
Oui.
Mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
Non.
Que s'est-il passé quand vous êtes allé à la cave ?
Monsieur Frachet.
Procès verbal d'audition numéro 3. Arnaud Frachet, lundi 14 août 2017.
Comment vous vous sentez ?
Je veux juste que ça s'arrête. Ça fait si longtemps que je veux que ça s'arrête.
Je comprends. Mais vous êtes venu nous voir. C'est une bonne chose. Vous faites enfin ce qu'il faut, Arnaud.
Je peux vous appeler Arnaud ?
Oui,
je vous écoute.
J'ai voulu la libérer, mais la porte était bloquée. Il y avait des coulées de boue partout, des branches d'arbres sur la porte.
C'est une trappe, vous savez, dans le sol.
C'est toujours comme ça, j'imagine. Je n'y suis pas retournée depuis longtemps. Même pour la vente, je suis juste allée chez le notaire. J'ai payé une entreprise pour débarrasser la maison.
Oui, c'est toujours comme ça.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai enlevé les branches. Je suis allée prendre une pelle dans la remise et j'ai raclé la boue. Ça a été long et très pénible.
Mais vous avez réussi à ouvrir la porte.
C'était trop tard. Pauline était... Enfin, vous savez.
Je sais, mais j'ai besoin que vous le disiez.
Je suis descendue. Il y avait encore beaucoup d'eau. J'en avais jusqu'à la poitrine. Et de la boue partout. C'était affreux.
Pauline était morte, n'est-ce pas ?
Oui.
Et ensuite, vous êtes ressorti de la cave ?
J'ai pleuré.
Vous avez pleuré ? Très bien.
Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai tout raconté à mon père.
Vous n'aviez plus peur de vous faire disputer ?
Et puis ?
J'ai tout raconté à mon père et il a dit qu'il allait régler le problème.
Vous savez ce qu'il a fait pour régler le problème ?
Non, pas vraiment.
Vous lui avez expliqué comment tout ça était arrivé ?
Pourquoi ?
Je lui ai dit que Pauline racontait des conneries sur son compte. Il a répondu que c'était faux. Il a dit « J'aime ta mère ». Il a dit « Je ne ferai jamais une chose pareille ».
Vous l'avez cru ?
Arnaud,
vous l'avez cru ?
Je ne sais pas.
Dans le carnet de Malo, lundi 21 août 2017, 10h37, plein soleil.
Depuis samedi et ma lecture du dossier, je suis assez secouée. Évidemment, je n'ai pas pu raconter à mes parents que je savais enfin, dans les grandes lignes, tout au moins, ce qui s'était passé dans cette fichue maison. Lily et moi avons, une fois de plus, enfreint la loi en récupérant ces documents. Clunet ne s'est visiblement aperçu de rien, mais pour l'instant, nous sommes tenus au secret. Par chance, j'ai réussi à négocier la restitution de mon téléphone portable. Le coup de l'ado dépressif, ça finit toujours par marcher. Alors, nous communiquons beaucoup, Lily et moi, en attendant que les découvertes de la police soient rendues publiques. Ça nous fait du bien d'en parler, de ne pas rester seuls avec cette horrible histoire. La grande question, celle qui nous turlupine, nous empêche de dormir, est simple. Pauline va-t-elle être retrouvée? Rien n'est moins sûr. Arnaud semble ignorer ce que son père a fait du corps. Et peut-être le vieux Charles a-t-il raconté n'importe quoi lorsqu'il nous a dit qu'elle était au château. Sans parler des 3 décennies qui se sont écoulées, avec leur lot de catastrophes naturelles, d'orages, de glissements de terrain, d'incendies de forêt et autres joyeusetés. Honnêtement, je n'étais pas très optimiste, pour ne pas dire défaitiste. Jusqu'à ce matin. Je me suis levée très tôt pour profiter du jardin avant que le cagnard ne s'abatte sur le monde. De toute façon, j'étais incapable de faire la grasse matinée, ma nuit ayant été peuplée de cauchemars, tous plus angoissants les uns que les autres. Mais j'étais vraiment dans le coltard, et pour tenter de me réveiller, j'ai pris une longue douche chaude. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Je suis sortie de la douche et je me suis frictionnée avec une serviette. La salle de bain était dans le brouillard, toute pleine de buée après mon quart d'heure d'ablution. C'est seulement quand la vapeur a commencé à se dissiper que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Sur le miroir, tracé au doigt dans la buée, on pouvait lire « Merci ». Je me suis figée de surprise, mais je n'ai pas eu peur. J'ai contemplé ces 5 lettres merveilleuses, le sourire aux lèvres, jusqu'à ce qu'elles finissent par disparaître. Le miroir est beaucoup trop haut pour que Jeanne puisse l'atteindre. Et puis, Jeanne dormait encore, j'en étais sûre. J'étais passée la voir avant de rejoindre la salle de bain. Quelqu'un avait écrit « Merci ». Et ce quelqu'un ne pouvait être que Pauline. Je sais maintenant qu'on va la retrouver. À l'heure qu'il est, ils l'ont même sans doute déjà retrouvée. La fille garçon est simplement venue me dire au revoir. Mardi 22 août 2017, 16h19, plein soleil. Après les aveux d'Arnaud, les policiers sont montés au temple Maya, enfin au château. Ils ont fait des fouilles qui ont duré 5 jours. À grands coups de pelleteuse et de persévérance, ils ont retrouvé Pauline, le squelette de Pauline. Après avoir sondé la zone, ils ont exhumé cette tombe qui n'en était pas une, son corps enfoui dans la partie nord du bâtiment, la plus écroulée, la plus perdue. J'avais d'instinct baptisé cet endroit le temple Maya. Les temples Maya, parfois, étaient des sépultures. La nouvelle, bien sûr, fait la une des journaux. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui s'est passé entre les déclarations d'Arnaud, l'étrange récit de Pauline et notre entretien informel avec Charles Frachet. Après la confession de son fils, les policiers ont une nouvelle fois rendu visite au vieil homme, chambre 202. Résultat, il est resté mutique, enfermé dans sa tête. Volontairement peut-être. En tout cas, ils n'ont rien pu en tirer. Mais Lily et moi, nous avons reconstitué la mort de Pauline. Notre vérité sur la mort de Pauline, forcément parcellaire, romancée, mais probablement assez proche de la réalité. Nous avons combiné les informations disponibles, rassemblé les éléments connus et tenté de combler les blancs. Ce 26 août 1987, elle est donc entrée dans la chambre d'Arnaud pour lui annoncer « Ton père se tape ma mère ». Arnaud, qui voue un culte sans borne à ses parents et à son père en particulier, n'a pas supporté ces accusations. Il a piégé la fille de la bonne, l'a enfermée dans la cave. Il voulait simplement lui donner une bonne leçon. Quand le déluge s'est abattu, il n'a pas osé avouer son forfait. D'abord parce qu'il savait que c'était mal. Enfermer une jeune fille dans une cave, ce n'est pas une simple bêtise. Et puis, il aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il avait fait une chose pareille. En cela, le vieux Charles avait raison. Arnaud avait voulu le protéger. Épargner sa mère, empêcher l'éclatement de cette cellule familiale à laquelle il tenait plus que tout au monde. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'au living tout le monde s'inquiétait, que Solange, affolée, appelait les secours et que le jeune Arnaud délibérait avec lui-même, l'eau, implacablement, montait dans le cellier. J'ai des hauts le cœur d'imaginer Pauline prisonnière de cette pièce sous terre, que la pluie et la boue, minute après minute, emplissaient. Se voir mourir. Elle avait dû hurler de toutes ses forces à s'en écorcher les cordes vocales. Mais bien sûr, personne ne pouvait l'entendre. Le village subissait une catastrophe majeure. Sunshine, seule dans l'obscurité, perdant espoir au fil des heures. Est-elle morte à 3 heures du matin, cette nuit-là? J'ai tendance à le croire. Le lendemain après-midi, une fois l'orage passé, Arnaud était allé ouvrir la porte de la cave. Il avait sûrement crié son prénom. « Pauline ! Pauline !» Mais l'eau avait tout submergé. La jeune fille était loin, très loin du monde réel, prisonnière de la boue, morte depuis des heures, étouffée, noyée, enterrée vivante. J'imagine ce que le pauvre gamin avait dû ressentir en réalisant qu'il était, malgré lui, devenu un assassin. J'ai presque de la peine pour lui. Et dire que je dors dans sa chambre. Alors, paniqué, désespéré, il avait prévenu son père. Et papa, ce très puissant papa, avait réglé le problème. Papa était un colosse, Pauline une miniature. Papa, dans la nuit noire, avait caché Pauline. Dans un sac, une valise. Et une pelle sous le bras l'avait emmenée loin de la maison des pins. Il l'avait sans doute chargée dans le coffre de sa voiture, puis l'avait conduit, dans un état second, jusqu'à l'orée des bois, à cet endroit précis où Lily et moi nous aimons pique-niquer. Il s'était garé, avait porté le corps jusqu'au château, avait creusé une tombe, sépulture de fortune. Il avait pleuré sans doute, lui aussi. Parce qu'il le savait, ce qu'il venait de faire le hanterait à jamais. Le château avait toujours eu mauvaise réputation. Si on la retrouvait là-haut, avalée par la terre, qui s'en étonnerait? Qui penserait à eux? Eux, les Frachets, riches antiquaires de la ville, généreux donateurs aux œuvres de la région, notables envies de tous. Et puis, avec un peu de chance, personne ne la retrouverait. Personne ne l'avait, en effet, jamais retrouvée. Vendredi 1er septembre 2017, 16h19, plein soleil. D'ici quelques jours, ce sera la rentrée des classes, mais je reste tout à fait zen. J'ai passé un été tellement bizarre que j'ai le sentiment de pouvoir affronter n'importe quoi. Pop a promis de venir pour les vacances de la Toussaint, même s'il se dit dégoûté que la maison ne soit plus hantée. À ma grande surprise, il me croit sur toute la ligne. Ou comme Lily fait semblant de me croire. Mais ça n'a plus d'importance. Jeanne et moi, nous savons. Une part de vérité a été dévoilée. Solange Gardinet, la mère de Pauline, a une tombe sur laquelle se recueillir, même si la culpabilité doit également l'étreindre. Sans cette triste liaison, rien ne serait arrivé. Jean-Phi et Clounet peuvent enfin faire leur deuil d'une histoire qui, dans leur jeunesse, a modifié le cours de leurs existences. Arnaud va peut-être réussir à dormir, Charles à mourir en paix. En paix, façon de parler. Je n'ose pas imaginer à quoi ont ressemblé leur vie ces 30 dernières années, avec cet effroyable secret au-dessus de la tête. Ils ont été bien punis, dans un sens. Le silence les a condamnés à une culpabilité à perpétuité. A-t-on vraiment rendu justice à Sunshine? Difficile à dire. En tout cas, la maison est redevenue calme. C'est idiot, mais j'ai l'impression qu'un filtre a été ôté, un peu comme sur Instagram. La maison est désormais notre maison, quand elle me semblait toujours voilée, poussiéreuse et jaunâtre. J'ai négocié avec Sophie qu'on ne parle plus de living, mais de salle à manger. Ça la fait rire, elle m'accuse de lubie lexicale. Pour autant, elle s'y tient, comme si elle cherchait à se faire pardonner de nous avoir entraînés dans cette galère. Mais je vais peut-être me plaire ici. Finalement, la quiétude a du bon, et avouons-le, je ne crache pas sur le soleil. Avec Pop, nous avons commencé à travailler sur une bande dessinée qui racontera l'histoire de Pauline. J'écris le scénario, il dessine. Pour l'inspirer, je lui ai mêlé des tas de photographies de la maison, du village et des monstres aux plantes, en attendant qu'il vienne en repérage. Quand Lily a regardé les premières planches, elle s'est exclamée « Waouh, Malo, vous êtes super doué !» Je suis bien obligée d'avouer que son enthousiasme m'a motivée. De mon côté, comme son fiancé Rocker, je l'ai également encouragée. Sur nos conseils, elle vient de s'inscrire à la fac de Nîmes, en psycho. Même si c'est la plus jolie postière que j'ai jamais vue, elle n'est pas faite pour distribuer le courrier jusqu'à 70 ans. Le 27 août 2017, 30 ans trop tard, nous avons, à nouveau, enterrer Pauline. Correctement, cette fois-ci, de manière solennelle. Solange, bien qu'installée aujourd'hui près de Clermont-Ferrand, a voulu que sa fille soit inhumée ici, dans cette région où, nous a-t-elle expliqué, Pauline avait été, en dépit des événements, particulièrement heureuse. Elle a plus de 60 ans aujourd'hui, et son visage marqué raconte ses longues années de deuil impossible. Comme pour les funérailles de ma mère, il faisait anormalement beau. Ça m'a fait plaisir, d'une certaine façon. Je me suis dit que la lumière venait pour les gens qui, malgré leurs erreurs, entretenaient le soleil. C'est idiot, et tout à fait irrationnel. Des gens merveilleux ont été mis en terre sous la pluie. Des salauds en plein cagnard. N'empêche. Nous avons enterré Pauline, enfin. Ma main était dans la main de Jeanne, celle de Jeanne dans celle de Lily dans celle de Jérôme. Mes parents, un peu en retrait, étaient serrés l'un contre l'autre, embarrassés. Il y avait le commissaire Bertin et tous les flics du coin, Brigitte Labougonne, monsieur et madame Vernet. Il y avait des dizaines et des dizaines de gens que je n'avais jamais vus, que je connaîtrai un jour sans doute. Il y avait des adolescents de mon âge, dont une jolie blonde qui m'a fait des sourires. Je le sais maintenant, elle s'appelle Joséphine et avec un peu de chance, elle sera dans ma classe. Sur le cercueil laqué noir, parmi les roses blanches, j'ai posé la pampille. Le cristal a scintillé comme un ultime clin d'œil de la fille-garçon au monde des vivants. Pendant la cérémonie, Jeanne m'a tirée par la main. Je me suis penchée vers elle. À l'oreille, elle m'a dit « On l'a déprisonnée, hein ?»« Oui, bébé, elle va dormir pour toujours. C'est grâce à toi. » Et je me demandais « Que serait devenue Pauline si... » D'après sa mère, elle adorait les sciences, la biologie, le corps humain. Elle rêvait d'être chercheuse, comme Marie Curie, ou médecin, ou chirurgienne. Peut-être nous aurait-elle sauvés ? Peut-être aurait-elle inventé un vaccin contre le sida ? Un remède contre le cancer ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Ce jour-là, c'était le deuxième enterrement de ma courte existence. À 6 ans, j'étais trop petit pour comprendre ce que cela signifiait vraiment, mourir. Je comprends mieux aujourd'hui, et je crois que, dans un sens, je parviens enfin à accepter l'absence de cette mère partie trop tôt. Après la cérémonie, en hommage à Pauline, nous nous sommes dispersés pour rejoindre le buffet dressé pour l'occasion au Moderne. Avant de quitter les lieux, Sophie a eu un coup de panique. Jeanne n'était plus dans les parages. Ma petite sœur s'était évaporée, comme cet après-midi-là, dans le jardin de la Maison des Pins. Nous l'avons cherchée dans toutes les directions, en criant son prénom, affolée. Je l'ai finalement retrouvée, à l'autre bout du cimetière, face au marbre sculpté d'une tombe inconnue. Elle était en grande discussion avec quelqu'un. Quelqu'un qui, une fois de plus, n'était pas là. « Je sais, » disait-elle à la tombe d'une voix posée de grande personne. « C'est le problème avec l'amour. C'est comme l'électricité quand on appuie sur l'interrupteur. À un moment, c'est là, et puis c'est plus là. » D'un pas prudent, je me suis approchée d'elle. « Jeanne, à qui tu parles ?» Elle a tourné la tête, m'a souri. « Elle s'appelle Célia. Je crois qu'elle va bien maintenant. » Mais ça lui fait plaisir de discuter parce qu'elle s'ennuie un peu. J'ai regardé l'épitaphe gravée en lettres d'or sur la pierre blanche. Célia Nel, 25 janvier 1867, 13 avril 1888. Morte à 21 ans. Chagrin d'amour ? Suicide ? Alors j'ai compris. Sunshine avait laissé quelque chose en remerciement, quelque chose à ma sœur. Je ne sais pas si c'est un don ou une malédiction. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'angoisser. Mais quoi qu'il en soit, les morts contrariés auront désormais une oreille pour les écouter. J'ai pris la main de Jeanne, elle était petite, douce et chaude. Ensemble, nous sommes partis au Moderne, trinqués à la santé de Pauline. Et au faîte du ciel d'un bleu surnaturel, le soleil brillait. Voilà, c'était la fin de « Celle qui marche la nuit », un des romans qu'on lit ensemble pendant cette année dans le cadre du prix des Incorruptibles, pour lequel on va bientôt voter. Donc parmi les livres qui ont été sélectionnés cette année et que donc vous avez eu l'occasion de lire, il va falloir en élire un. Et celui qui aura été élu par l'ensemble des lycéens et des collégiens gagnera le prix des Incorruptibles, qui est un prix très très important en ce qui concerne la littérature jeunesse. J'ai hâte de vous retrouver pour discuter de tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, une bonne semaine de travail à distance et je vous dis à très vite.